Dimanche de Pâques, après-midi. Me revoilà sur un banc de Dealey Plaza à contempler le cube de briques austère du Texas School Book Depository et à me demander quoi faire ensuite. Dans 10 jours, Lee allait quitter Dallas pour la Nouvelle-Orléans, sa ville de naissance. Il trouverait un emploi au graissage des machines dans une compagnie de café et louerait l'appartement de Magazine Street. Après avoir passé environ 2 semaines chez Ruth Payne et ses enfants à Irving, Marina et June le rejoindraient. Je ne les suivrais pas. Pas avec Sadie confrontée à une longue période de rétablissement et à un avenir incertain. Allais-je tuer Lee entre ce dimanche de Pâques et le 24 avril? Je l'aurais sans doute pu. Depuis qu'il avait perdu son emploi chez Jagger's Child Stowell, il passait la plupart de son temps soit à l'appartement, soit à distribuer des tracts « Justice pour Cuba » dans le centre de Dallas. De temps à autre, il se rendait à la bibliothèque où il semblait avoir renoncé à Ayn Rand et Karl Marx au profit des westerns de Zane Grey. L'abattre dans la rue ou à la bibliothèque de Young Street équivaudrait à signer mon mandat d'incarcération immédiate. Mais si je le faisais dans l'appartement du dessus, pendant que Marina était à Irving, pour aider Ruth Payne à améliorer son russe? Je pouvais frapper à la porte et lui tirer une balle dans la tête quand il mourirait. Mission accomplie. Aucun risque, à bout portant, de décrocher la culotte de Maggie. Le problème, ce seraient les suites. Je devrais prendre la fuite. Si je ne le faisais pas, je serais la première personne que les flics interrogeraient. J'étais le voisin du dessous, après tout. Je pourrais prétendre que je n'étais pas là quand c'était arrivé, et ils pourraient gober ça pendant un certain temps. Mais combien de temps s'écoulerait-il avant qu'ils découvrent que le George Amberson de West Neely Street était le même que celui qui se trouvait sur les lieux d'une autre scène de violence à Jody peu de temps auparavant? Cela mériterait des vérifications. Et les vérifications révéleraient bientôt que le titre d'aptitude à l'enseignement de George Amberson provenait d'une usine à diplôme en Oklahoma et que les références de George Amberson étaient fausses. À ce moment-là, je serais très vraisemblablement arrêté. La police obtiendrait une ordonnance du tribunal pour ouvrir mon coffre-fort, pour peu qu'ils découvrent que j'en avais un, et ils le découvriraient probablement. Voyant mon nom et ou ma photo dans le journal, Mr. Richard Link, mon banquier, se manifesterait. Que conclurait la police de mes mémoires? Que j'avais un motif, si fou soit-il, pour abattre Oswald? Non. Je devrais filer ventre à terre au trou du terrier, en abandonnant la Chevy quelque part en Oklahoma ou en Arkansas, puis en prenant un bus ou un train. Et si je réussissais à rentrer en 2011, je ne pourrais jamais repasser par le terrier sans provoquer une remise à zéro. Ce qui voudrait dire abandonner Sadie derrière moi pour toujours, défigurée et seule. « Bien sûr, il m'a laissé tomber », penserait-elle. « Il m'a bien endormie avec ses belles histoires sur les cicatrices de variole qui sont aussi jolies que des fossettes. Mais dès qu'il a entendu le pronostic d'Allerton, l'aide maintenant, l'aide à tout jamais, il a couru aux abris. » Elle risquait même de ne pas m'en vouloir. C'était ça le pire à envisager. Mais non, non, je pouvais imaginer encore pire. Supposons que je rentre en 2011 après avoir buté Oswald pour découvrir que quelqu'un avait quand même assassiné Kennedy le 22 novembre. Je ne pouvais toujours pas affirmer qu'Oswald était seul. Qui étais-je pour prétendre que 10 000 théoriciens du complot se trompaient? Surtout en me fondant sur les quelques bribes de renseignements que m'avaient valu toutes mes heures de traque et d'affût. Peut-être qu'en cherchant sur Wikipédia, je découvrirais que le tireur se trouvait sur le talus herbeux, en fin de compte. Ou sur le toit du tribunal du comté, dans Houston Street, armé d'un fusil de tireur d'élite au lieu d'un Mannlicher Carcano acheté par correspondance. Ou planqué dans un égout d'Elm Street, et surveillant l'approche de Kennedy avec un périscope, comme quelques-uns des plus folles dingues tenants de la conspiration l'affirmaient. Morenchild, d'une façon ou d'une autre, était un atout dans le jeu de la CIA. Même Al Templeton, qui était presque certain qu'Oswald avait agi seul, le reconnaissait. Al était convaincu qu'il n'était qu'un petit atout, passant au-dessus des bribes de cancan sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale afin de garder à flot ses diverses spéculations dans le pétrole. Mais s'il était plus que ça? La CIA détestait Kennedy depuis que celui-ci avait refusé d'envoyer des troupes américaines pour soutenir les forces débarquées dans la baie des Cochons. Sa gestion habile de la crise des missiles avait accru cette haine. Les taupes avaient voulu se servir de cette crise comme d'un prétexte pour mettre fin à la guerre froide une fois pour toutes, car ils étaient persuadés que le battage autour du prétendu retard balistique était une fiction. On pouvait lire ça dans quantité d'articles de presse, parfois entre les lignes, parfois textuellement. Supposons que certains éléments incontrôlés de la CIA aient convaincu George de Morenchild d'accepter une mission beaucoup plus dangereuse. Ne pas tuer le président lui-même, mais recruter plusieurs individus quasi déséquilibrés, prêts à faire le travail. Morenchild aurait-il accepté une telle offre? Je le pensais. Lui et Jane vivaient sur un grand pied, mais je ne savais pas exactement comment ils payaient la Cadillac, le club privé et leur demeure tentaculaire de Simpson Stewart Road. Faire office de fusible de sécurité entre un président américain en ligne de mire et une agence qui, théoriquement, avait vocation à exécuter ses ordres, c'était là un travail dangereux. Mais si le gain potentiel était suffisamment important, un homme vivant au-dessus de ses moyens pouvait être tenté. Et il n'était même pas obligé de toucher son fric en espèces sonnantes et trébuchantes. C'était là la beauté du truc. Rien que ces merveilleuses concessions pétrolières au Venezuela, en Haïti et en République dominicaine. De surcroît, un tel rôle pouvait facilement séduire un cabotin grandiose comme Morenchild. Il aimait l'action et se foutait pas mal de Kennedy. À cause de John Clayton, je n'étais même pas en mesure de disqualifier Morenchild dans l'attentat contre Walker. C'était le fusil d'Oswald, certes, mais supposons que Lee se soit trouvé dans l'incapacité de tirer le moment venu. Je me disais que ça lui ressemblerait assez à cette petite fouine de se dégonfler au moment critique. Je voyais bien Morenchild arracher le carcano de ses mains tremblantes en grondant « Donne-moi ça, je fais mon charger moi-même !» Morenchild aurait-il été capable de tirer depuis la poubelle que Lee prévoyait d'utiliser comme poste de tir? Une ligne dans les notes de Hall me laissait penser que oui. Premier prix, balle tir, club privé, 1961. Si je tuais Oswald et que Kennedy mourait quand même, j'aurais fait tout ça pour rien. Et quoi ensuite? Rincer et répéter le cycle? Tuer encore une fois Frank Dunning? Sauver encore une fois Caroline Poulain? Rejoindre encore une fois Dallas en voiture? Rencontrer encore une fois Sadie? Elle aurait le visage intact, et ce serait bien. Je saurais à quoi son ex-mari cinglé ressemblait, cheveux teints et le reste. Et cette fois, je pourrais l'arrêter avant qu'il ne s'approche trop près. Ça aussi, ce serait bien. Mais rien que d'envisager de repasser encore une fois par tout ça m'épuisait. Et puis, je ne pensais pas être capable de tuer Lee de sang-froid. Du moins pas en me fondant sur la seule preuve circonstancielle dont je disposais. Pour Frank Dunning, j'avais toutes les preuves. Je l'avais vu, de mes yeux vu. Alors, quel serait mon prochain coup? Quel pion allais-je avancer? Il était déjà 16h15 et j'ai décidé que mon prochain coup serait d'aller voir Sadie. Je suis parti à pied chercher ma voiture qui était stationnée dans Main Street. À l'angle de Main et Houston, juste après le vieux palais de justice, j'ai eu la sensation d'être observé et je me suis retourné. Il n'y avait personne sur le trottoir derrière moi. C'était le School Book Depository qui m'observait, de toutes ces fenêtres aveugles donnant sur Elm Street, par où, dans environ 200 jours à compter de ce dimanche de Pâques, le cortège présidentiel arriverait. On servait le repas à l'étage de Sadie quand je suis arrivé. Du chop suey. L'odeur a fait remonter l'image nette de John Clayton et de son sang qui avait giclé sur sa main et son avant-bras avant qu'il ne s'écroule sur le tapis face contre terre. Dieu merci. « Bonjour à vous, monsieur Amberson », m'a dit la surveillante générale quand j'ai signé le registre. C'était une femme aux cheveux grisonnants en uniforme et calot blanc à mi-donnée. Une montre de gousset était épinglée sur sa poitrine volumineuse. Elle m'a dévisagé, retranché derrière une barricade de bouquets. Ils ont crié comme des putois dans cette chambre hier soir. Je vous le dis parce que vous êtes son fiancé, c'est bien ça ? C'est exact, ai-je confirmé. C'était effectivement ce que je voulais être. Visage balafré ou pas. L'infirmière s'est penchée vers moi, entre deux vases surchargés de fleurs. Quelques marguerites effleurèrent ses cheveux. « Écoutez, je n'ai pas pour habitude de cancaner sur mes patients et je rabroue vertement les jeunes infirmières qu'ils font. Mais la façon dont ses parents l'ont traité est indigne. Je suppose que je peux comprendre qu'ils aient débarqué de Géorgie avec les parents de ce cinglé, mais... Attendez une minute. Vous êtes en train de me dire que les Dunhill et les Clayton sont arrivés ensemble ? J'imagine qu'ils devaient être cul et chemise à une époque plus heureuse. » Alors d'accord, très bien, je peux comprendre. Mais allez lui dire que pendant qu'ils étaient en haut dans sa chambre, leurs bons vieux amis, les Clayton, étaient en bas à la morgue pour reconnaître leur fils. Elle secoua la tête. Le père n'a rien dit. Mais cette femme... Elle a vérifié d'un regard circulaire que nous étions toujours seuls, puis s'est de nouveau tournée vers moi. Son visage simple de paysanne était assombri par l'indignation. Elle n'a jamais pu la boucler. Elle a demandé une fois à sa fille comment ça allait, puis ça n'a été que ses pauvres Clayton par-ci et ses pauvres Clayton par-là. Votre Miss Dunhill a tenu sa langue jusqu'à ce que sa mère fasse remarquer que c'était une pitié qu'ils aient encore dû changer d'église. Alors votre jeune demoiselle a perdu son sang-froid et elle leur a hurlé de sortir. « Elle a bien fait, » j'ai dit. Je l'ai entendu crier « Vous voulez voir ce que le fils de vos bons vieux amis m'a fait ?» Alors là, mon petit bonhomme, je me suis précipité. Elle était en train d'essayer de retirer ses pansements. Et la mère, oh, vous ne le croirez pas, monsieur Amberson, elle se penchait pour voir avec avidité. Elle voulait vraiment voir ça de près. Je les ai fait sortir en vitesse et j'ai appelé un interne qui a fait une piqûre à Miss Dunhill pour la calmer. Le père, une petite souris furtive, a voulu s'excuser pour sa femme. Elle n'avait pas conscience de perturber Sadie, qu'il m'a dit. Et vous alors, que je lui ai répondu, vous aviez perdu votre langue ? Et vous savez ce qu'a dit cette femme juste avant qu'il monte dans l'ascenseur ? J'ai secoué la tête. Elle a dit, je ne peux pas lui en vouloir à ce garçon, comment voulez-vous ? Il venait jouer chez nous quand il était petit, et c'était le plus doux des enfants. Vous arrivez à croire une chose pareille ? Oui, j'y arrivais. Parce que d'une certaine façon, je pensais avoir déjà rencontré la mère Dunhill. Dans West 7th Street, pourchassant son fils aîné en lui criant à plein poumon « Arrête-toi, Robert ! Ne marche pas si vite, j'en ai pas terminé avec toi !» Vous risquez de la trouver extrêmement affectée, me dit l'infirmière. Je voulais juste que vous sachiez qu'il y a une bonne raison à ça.